Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Stabat Mater Dolorosa, debout, la mère de douleur se tenait en larmes près de la croix où son fils était suspendu. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui la fête des sept douleurs de la Bienheureuse Vierge Marie. C'est une fête dont nous devons prendre toute l'étendue, toute la mesure. Elle doit nous plonger dans une sorte de stupeur mêlée de crainte et d'espérance à la fois. Au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Vierge a mérité le titre de Reine des Martyrs. Elle a compris et elle a participé aux souffrances rédemptrices de son divin Fils, de sorte qu'elle intercède pour les pécheurs que nous sommes et elle obtient le salut de tous ceux que son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a rachetés par son précieux sang. Il y aurait beaucoup de choses à dire et nous allons essayer avec l'aide du Saint-Esprit d'en dire quelques-unes et nous aurons à voir les points suivants. Premièrement, nous allons voir comment nous devons ressentir la violence des douleurs de la Bienheureuse Vierge Marie et comment elle se traduit en nous. Nous devons comprendre ce que la Très Sainte Vierge Marie a compris. Ensuite, nous reviendrons sur la violence des douleurs de la Bienheureuse Vierge Marie à la croix et nous verrons comment elle se traduit en nous. Et ensuite, et enfin, nous verrons comment, assistés par la Bienheureuse Vierge Marie, nous devons éviter de la rendre amère contre nous. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei,
nous avons chanté il y a un instant cette séquence Stabat Mater qui est si belle, si profonde et qui contient une théologie extrêmement dense. Dans la sixième strophe, qui est la suivante, qui pourrait sans tristesse contempler la mère du Christ s'affligeant avec son fils, dans cette sixième strophe, mes très chers frères, nous nous posons la question, qui pourrait être indifférent à une telle souffrance? C'est la souffrance d'une mère par rapport à son fils, mais ce n'est pas n'importe quelle mère et ce n'est pas n'importe quel fils. Déjà, la souffrance d'une mère quelconque par rapport à son fils quelconque est une chose qui est grande et digne de compassion, mais la mère de Dieu, vis-à-vis de son fils divin, son divin fils, notre Seigneur Jésus-Christ, mourant sur la croix, lui qui était innocent. Il y a une grande cruauté à ne pas compatir à la souffrance de la Bienheureuse Vierge Marie, et nous aurons à approfondir un petit peu ce sujet. Mais immédiatement, nous nous posons une autre question. Qui pourrait oser avoir des sentiments différents de ceux qui étaient dans le cœur de la Très Sainte Vierge Marie? C'est une chose que de compatir à la douleur de la Très Sainte Vierge Marie, et c'est le but de cette fête, puis c'en est une autre que d'y compatir à ses souffrances pour des raisons qui ne sont pas les raisons pour lesquelles elle souffrait. Alors vous allez dire, comment cela se peut-il? Au verset numéro 7, Propecatis sui gentis, elle voyait, nous dit le... La traduction, elle voyait pour les péchés de son peuple, livré aux tortures et déchiré par les fouets. Elle le voyait, son fils. Livré aux tortures et déchiré par les fouets pour les péchés de son peuple. La Très Sainte Vierge Marie, regardant à la croix, voyait exactement ce qui se passait. Judas, voyant, enfin s'il avait vu, il a prévu ce qui allait se passer. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un innocent livré à la mort d'une façon injuste, pour un gain sordide. Et ça lui a tellement fait horreur, cette vision, qu'il s'est pendu. Il s'est brisé et ses entrailles se sont répandues, comme dit Saint-Pierre. Les apôtres, excepté Saint-Jean, lorsqu'ils ont vu notre Seigneur de loin sur la croix, ils ont pensé quelque chose qui n'était pas loin de ce que devaient penser quelques jours après, trois jours après, les pèlerins d'Emmaüs, qui disait, nous pensions que c'était celui-ci qui devait être le sauveur d'Israël, et puis il est mort. Saint Jean, au pied de la croix, était debout avec la très sainte Vierge Marie, mais nous pensons, il est pieux de penser qu'il savait ce qui se passait, mais nous pouvons dire que, vu l'excellence de la très sainte Vierge Marie, il connaissait moins les raisons de ce qui se passait que la très sainte Vierge Marie. Il les connaissait, mais dans un degré moindre. Honneur à la très sainte Vierge Marie. Quiconque regarde au Christ en croix et ne voit pas en lui le Rédempteur, soumis aux tortures et déchiré par les fouets pour les péchés de son peuple, crache sur lui et se moque de lui. Alors vous allez dire, mais comment cela se peut-il? C'est très simple. Regardez, il y a toutes sortes de gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont mécréants, et qui appellent par dérision notre Seigneur le suspendu. Ce sont les Juifs. Les Juifs ne croient pas en notre Seigneur. Les musulmans, d'une certaine manière, ils font mine de croire que notre Seigneur est un prophète, mais ils nient qu'il a été crucifié. Donc, d'une certaine manière, quand on est pour notre Seigneur, mais que par ailleurs on nie qu'il a été crucifié, on ne voit pas du tout ce que voit la Sainte Vierge. Donc ils ont beau honorer, dit le Concile Vatican II, la Sainte Vierge, ça ne leur sert à rien, puisque finalement ils participent à ceux qui nient la rédemption opérée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'y a pas que les mécréants, il n'y a pas que les infidèles, il y a aussi les mauvais chrétiens. Il y a ceux qui regardent au Christ et qui voient en lui la figure de l'erreur judiciaire par excellence. Ils voient en lui la figure de celui qui a subi l'injustice et la méchanceté des hommes. Et puis il y a peut-être des gens plus modernes encore qui voient en lui la victime de l'intolérance, on n'a pas respecté son opinion, ses pensées, que sais-je. Tous ces gens-là, et surtout les derniers, crachent, se moquent et flagellent notre Seigneur. Ils lui enfoncent les clous dans les mains et les pieds, et la lance dans le côté et les épines sur la tête, si ce n'était déjà fait. Et ils le font et ils participent à cela. Pourquoi? Parce qu'ils voient autre chose sur la croix que ce que voyait la très sainte Vierge. Vidit Jesum in tormentis et flagellis subditum pro peccatis sui gentis. Donc la première leçon de la fête des sept douleurs de la Bienheureuse Vierge Marie, et nous regardons surtout la douleur de la sainte Vierge à la croix, la première leçon, dis-je, c'est que nous devons voir sur la croix ce que la Sainte Vierge voyait et ce qu'elle voit. Nous ne devons pas voir n'importe quoi, nous ne devons pas voir quelque chose qui nous fait pitié pour diverses raisons. Nous avons bien sûr pitié des gens qui sont victimes d'erreurs judiciaires. Cela nous fait beaucoup de peine et nous voudrions les aider, et si nous le pouvions et si nous le pouvons, nous le ferons. Nous le ferions. Maintenant, notre Seigneur, sur la croix, seule la Sainte Vierge l'a vu pour ce qu'il était. Il était déchiré, torturé pour les péchés de son peuple. Donc la très Sainte Vierge Marie, pas un seul instant, n'a pensé que son fils était la victime de la méchanceté des hommes. Elle n'a pas pensé un seul instant que son fils aurait pu être avec une belle couronne d'or sur la tête et elle à côté sur un trône équivalent, un petit peu comme la maman de Napoléon. Non, il se trouve qu'elle voyait le Messie, son fils, celui que l'archange Saint-Gabriel lui avait annoncé, et que le vieillard Saint-Siméon lui avait dit devoir racheter son peuple et en même temps sa passion devant lui transpercer le cœur d'un glaive mystérieux. Si nous ne voyons pas ce que la Sainte Vierge voyait et voit quand elle regarde la croix, nous ne sommes pas avec la Sainte Vierge. La Sainte Vierge voyait donc ce qu'il faut voir dans le crucifié, c'est-à-dire ce que le Père éternel voyait. Parce que la Sainte Vierge ne voyait rien de son point de vue personnel, propre, subjectif. Elle voyait les choses telles qu'elles sont parce qu'elle avait le regard de Dieu le Père. Elle n'avait pas, non pas son regard, mais le regard de Dieu. Que voyait Dieu le Père lorsqu'il regardait à la croix? Il voyait l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il voyait le bélier dont les cornes étaient retenues dans les broussailles, dans les épines, qui devait prendre la place de saint Isaac sur l'autel du sacrifice. Il voyait le Rédempteur, il voyait l'agneau pascal réalisé, il voyait en lui tous les boucs, tous les taureaux, tous les agneaux, etc., toutes les génisses qui avaient jamais été immolées dans l'attente de la grande expiation opérée par le Messie. Il voyait tout cela et la Sainte Vierge ne voyait pas autre chose. Et nous, mes très chers frères, nous ne devons pas voir autre chose que cela sur la croix. Si nous voyons autre chose, nous nous trompons. Elle voyait, encore la très sainte Vierge Marie, selon les paroles mêmes de notre Seigneur, le serpent élevé par Moïse dans le désert sur son bâton, sur la croix, vers lequel tous ceux qui tournaient leur regard étaient guéris de la morsure des serpents brûlants. Elle voyait que le peuple de Dieu serait dorénavant sauvé par le regard de foi porté vers lui, nous qui avons été mordus par le serpent et qui avons reçu le venin du péché originel. La très sainte Vierge Marie voyait encore autre chose que nous devons voir nous aussi. Elle voyait les conséquences du péché originel et des péchés actuels. Elle voyait notre Seigneur Jésus-Christ, son divin Fils, fait malédiction pour nous. Elle voyait le résultat de la chute de l'homme. Quand on voit que Dieu, dans le paradis terrestre, a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, de mort tu mourras, et que l'on voit, quelques versets plus loin, ce qui s'est passé, on s'aperçoit que notre Seigneur a beaucoup atténué la conséquence du péché originel, sous un certain rapport, qui aurait pu être encore plus dévastateur qu'il ne l'a été, et il l'a été d'une façon dramatique. Mais c'est-à-dire que nous voyons Adam vivre encore 900 ans, Adam être le patriarche des patriarches, Adam, certes, souffrir de voir ses enfants, tuer son frère Abel, néanmoins, Adam a quand même vécu une vie longue, et il a pu voir des descendants, certes des mauvais descendants, mais aussi des bons descendants. Il a pu voir Seth remplacer Abel, il a pu voir la lignée des justes qui s'est succédée par la suite. Donc, nous voyons que seul un Dieu, fait homme, pouvait subir en une seule fois toute la conséquence, si l'on peut dire, du péché originel commis par nos premiers parents, Adam et Ève, dans le paradis terrestre, suite à leur écoute des paroles malicieuses du serpent et à leur mendication du fruit interdit. La Bienheureuse Vierge Marie, mes très chers frères, voyait les conséquences du péché originel et des péchés actuels qui sont les fruits du péché originel. Il n'y aurait pas de péché actuel s'il n'y avait pas de péché originel. Elle voyait les conséquences de tout cela s'abattre en une seule fois sur son fils. Et son fils était capable de les supporter, toutes ces conséquences, parce qu'il était vrai homme, et il portait le poids de tous les péchés de tous les hommes, à commencer par le premier, et il était vrai Dieu, c'est-à-dire qu'il était capable de ne pas être écrasé par le poids de ses péchés, le poids de cette malédiction. Le Christ a été fait malédiction pour nous, et la très sainte Vierge Marie l'a vu, et elle l'a su. Quand elle regardait durant ces 3 heures de crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'elle regardait, elle qui connaissait l'Écriture, qui connaissait très bien l'Écriture, puisqu'elle l'étudiait depuis sa plus tendre enfance, elle voyait celui que la loi de Moïse déclarait maudit, car suspendu au bois. Maudit soit celui qui est suspendu au bois, dit Moïse. Et elle voyait celui que la loi déclarait maudit accomplir la douloureuse expiation d'une affreuse et infinie offense faite à Dieu. C'est-à-dire que la loi de Moïse prévoyait que celui qui était pendu au bois, c'est-à-dire crucifié ou pendu, était maudit. C'est pour cela qu'il fallait le décrocher avant le soir, c'est pour cela que les Juifs ont demandé, conformément à la loi de Moïse, que les crucifiés soient décrochés et enterrés avant l'entrée avant que le sabbat arrive. Donc, elle voyait que celui qui était pendu au bois était déclaré maudit par la loi, mais était déclaré innocent par Dieu, le proclamateur et le donateur de la loi. Bien sûr, quiconque est crucifié par ses propres péchés est d'une certaine manière maudit parce qu'il porte le poids de ses péchés. Mais celui qui est innocent, celui qui est le fils innocent du Père, comme dit la liturgie, eh bien, a été fait malédiction pour nous. Et la très sainte Vierge Marie le voyait, elle le comprenait. D'un regard, de son regard d'Immaculée Conception, elle comprenait la totalité de ces vérités que nous avons balbutiées en des termes rationnels et théologiques. Elle comprenait tout, elle voyait tout. Eh bien, mes très chers frères, nous devons, sinon comprendre avec toute la profondeur de la pénétration de son esprit, du moins nous devons comprendre par la foi et adhérer à ses définitions. Si nous voyons autre chose sur la croix que ce que la Sainte Vierge voyait, et ce que la Sainte Vierge voyait, c'était ce que le Père éternel voyait, alors nous nous trompons complètement et nous ne sommes quasiment pas chrétiens. La très Sainte Vierge Marie voyait encore dans cette croix terrible, sanglante, recouverte du sang de son fils et portant son fils agonisant, elle voyait l'arbre de vie portant son fruit pour la guérison des nations, comme le verrait plus tard le même Saint Jean qui était avec elle au pied de la croix et qui l'a vu par révélation on le voit dans le livre de l'Apocalypse. Sa douleur était conforme à la nature du sacrifice. Ce n'était pas la douleur d'une mère qui en voulait au monde entier parce qu'on la privait de son fils. Et tout ceci est contenu dans le premier mot du premier vers de cette séquence. Stabat, Mater Dolorosa. La mère douloureuse se tenait debout. C'est pour cela qu'il y a une décision de l'Église, qui date déjà d'il y a très longtemps, qui interdit la représentation de la très sainte Vierge Marie effondrée au pied du calvaire. C'est interdit de le représenter, parce que la tradition nous dit que la Sainte Vierge était debout. Quelle mère, voyant son fils crucifié, et avant cela il n'a pas été que crucifié notre Seigneur, il a été aussi flagellé avant cela, et il a été, vous savez ce qu'il a subi, quelle mère ne se serait pas effondrée de chagrin, ses jambes ne la portant plus, voyant l'intensité et l'horreur et l'immensité des douleurs de son fils. Eh bien, la très sainte Vierge Marie voyait tout ceci d'une façon suréminente, et c'est pour cela qu'elle était debout. Sa douleur était une douleur verticale, si j'ose dire. C'était une douleur virile. C'était une douleur qui ne pouvait être que la douleur de la Mère de Dieu. Seule la très sainte Vierge Marie a reçu la force du Saint-Esprit pour se tenir, quoique douloureuse, debout au pied de la croix de notre Seigneur. La croix de notre Seigneur est debout. Notre Seigneur figure debout sur la croix, puisqu'il est parallèle à la croix, si vous voulez regarder un crucifix, et la très sainte Vierge Marie est debout à côté de la croix et avec son Fils. Peut-être que les autres femmes étaient, et comme on représente Sainte Marie-Madeleine, effondrées au pied de la croix, elles embrassaient la croix, etc. C'est un autre destin, ce sont d'autres raisons, ce n'est pas la Sainte Vierge, ce sont les Saintes Femmes, et Sainte Marie-Madeleine a tout à fait sa place au pied de la croix, embrassant les pieds de notre Seigneur. La très Sainte Vierge Marie est debout. C'est-à-dire que sa douleur, dont nous voyons toute l'étendue, et il faut voir toutes les pièces de la liturgie d'aujourd'hui, à commencer par les matines, en passant par les lectures, les psaumes, et puis les antiennes des psaumes de Vêpres, et de toutes les heures, il se trouve que la très sainte Vierge Marie a connu une douleur sans égale, parce que c'était une douleur qui était pleinement consciente des raisons de sa douleur. Lorsque nous nous faisons mal en travaillant, lorsque une pierre nous écrase le doigt, lorsque nous tapons avec un marteau, lorsque nous nous blessons comme ça, nous avons la douleur, bien entendu, et elle est doublée de l'ignorance qui augmente la douleur. Vous voyez, nous nous blessons et nous pensons que c'est plus grave que ça ne l'est. Et donc nous avons encore plus peur, et nous avons peur et encore plus mal. Il faut qu'un médecin nous dise, non, la blessure est superficielle, ce n'est pas grave, avec l'aide de Dieu. Vous voyez, la très sainte Vierge Marie connaissait exactement la raison de sa douleur, et c'est pour cela que sa douleur approche de l'infinitude. Si la Sainte Vierge était divine, sa douleur serait infinie. La Sainte Vierge étant une vraie créature, sa douleur est sans limite. Nous devons donc prendre conscience et connaître ces choses-là, de peur de penser que la Sainte Vierge s'est laissée aller à la douleur naturelle d'une mère voyant son fils dans les souffrances. Elle est une vraie mère, elle a véritablement souffert, comme toutes les mères peuvent souffrir. Mais elle a souffert beaucoup plus. Pourquoi ? Parce qu'elle savait exactement ce qui se passait. Alors vous allez dire, mais votre exemple semble dire que le fait de savoir pourquoi on souffre, réduit la douleur. Eh bien, pour la Sainte Vierge, en quelque sorte, c'est paradoxal. Sachant exactement pourquoi elle souffrait et de quoi son fils souffrait, ses souffrances étaient presque infinies, de telle sorte qu'elle a mérité d'être appelée non seulement martyr, mais reine des martyrs. Aucun martyr n'a plus souffert que la Très Sainte Vierge Marie. C'est un grand mystère. La Très Sainte Vierge Marie, si elle s'était trouvée effondrée au pied de la croix, aurait été une très bonne mère naturelle, mais elle aurait manqué de foi. La souffrance et la douleur de la Très Sainte Vierge Marie est une souffrance, si j'ose dire, quitte à paraître un peu prosaïque, théologique. C'est-à-dire qu'elle savait exactement pourquoi elle souffrait, et s'il en avait été autrement, si elle s'était comportée autrement, elle aurait manifesté un manque de foi, ce qui est impossible puisqu'elle est l'Immaculée Conception. La Très Sainte Vierge Marie nous donne donc la mesure de la douleur qui doit être la nôtre lorsque nous contemplons la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Justement, nous passons à notre second point, qui consiste à savoir comment nous devons ressentir la violence de la douleur de la Bienheureuse Vierge Marie. Et ce sont des mots qui sont empruntés à la 9e strophe. « Ô Mère, source d'amour, faites-moi sentir la violence de vos douleurs, afin que je pleure avec vous. Eia mater fons amoris, me sentire vim doloris, fac ut tecum blugeam. » Faites-moi sentir vim doloris, la violence, c'est vrai, mais plus précisément la force des douleurs de la Très Sainte Vierge Marie. C'est une prière, comme à peu près toutes les prières de l'Église, c'est une prière qui est très dangereuse à prier et que nous devons prier. Qui voudrait ressentir exactement toute la violence des douleurs que la Sainte Vierge a ressenties ? Nous ne sommes pas la Sainte Vierge. Nous ne sommes pas même des saints, et même les saints, même le plus grand des saints n'aurait pas pu ressentir toute l'intensité de la violence de la douleur que la Sainte Vierge a ressentie. Donc, lorsque nous demandons à la Très Sainte Vierge Marie, faites-nous ressentir la violence de vos douleurs, afin que nous pleurons avec vous, nous ne faisons pas une demande téméraire, dont nous ne pourrions pas supporter l'exaucement. Nous demandons que quelque chose en nous corresponde, mutatis mutandis, à la douleur de la Très Sainte Vierge Marie. Et je vous pose la question, mes très chers frères, à quoi servirait-il à un chrétien de ressentir la douleur qu'a ressentie la Très Sainte Vierge Marie, si cette douleur ne se traduit pas en lui par la contrition des péchés? Si je ressens tout ce que la Sainte Vierge a ressenti, et que je n'ai aucune douleur de mes péchés en ce moment-là, est-ce que je ressens vraiment ce que la Sainte Vierge a ressenti? Alors, évidemment, on dira, oui, mais la Sainte Vierge était sans péché, donc cette douleur était exempte de toute contrition. Oui, mais nous ne sommes pas la Sainte Vierge. Et nous voulons ressentir, nous demandons de ressentir ces douleurs. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si nous ressentions, et des fois nous pouvons le ressentir, nous pouvons croire le ressentir, si nous ressentions quelque chose des douleurs de la Très Sainte Vierge Marie, sans que cette douleur se caractérise pour nous, spécialement par la contrition de nos péchés, vous savez quel est le sentiment qui va rapidement se faire place dans notre esprit, le ressentiment contre les bourreaux du Christ. On va contempler le Christ, on va croire ressentir quelque chose de la douleur de la Très Sainte Vierge Marie, et puis on va dire vraiment, ceux qui ont fait ça sont des ordures. Certes, mais j'y étais moi aussi, et pas du bon côté. Alors vous allez dire, mais moi je me sens plutôt comme Saint Jean, comme la Sainte Vierge. Oui, mais à cette époque-là, vous étiez dans vos ancêtres, et vos ancêtres étaient totalement païens, et vos ancêtres étaient totalement dans le péché. Nous sommes nés totalement dans le péché, mes très chers frères. Et au moment où la Sainte Vierge se tenait debout à côté de la croix du Christ, nous étions moralement du côté de ceux qui se moquaient du Christ, de ceux qui l'insultaient, de ceux qui le flagellaient, de ceux qui prenaient le roseau de sa main et frappaient sur la couronne d'épines, de ceux qui le revêtaient pour rire d'une toile de pourpre, d'un vêtement de pourpre pour se moquer de lui et de sa royauté. Nous étions de ces gens-là. Nous étions, alors vous allez dire, je ne suis pas aussi méchant que cela. Alors, très bien, nous étions de ceux qui passaient en secouant la tête et en disant que tout ceci se terminait bien mal. Vous voyez, les passants qui passaient en secouant la tête, dit l'Évangile. D'une manière ou d'une autre, nous n'étions pas la Sainte Vierge, nous n'étions pas Saint Jean, nous n'étions pas les deux autres Marie, nous n'étions pas au pied de la croix. Donc, où étions-nous? Et ne dites pas, je n'étais pas né. Nous étions dans nos ancêtres, c'est ce que nous enseigne Saint Paul. Nous étions dans nos ancêtres, et nos ancêtres, à ce moment-là, étaient totalement indifférents à ce qui se passait, et dans le pire des cas, ils contribuaient à la douleur de la très sainte Vierge Marie. Pourtant, il nous faut, puisque c'est là la prière que nous adressons à la Sainte Vierge, il nous faut ressentir la violence des douleurs, afin que nous pleurions avec elle. À quoi sert-il de pleurer avec la Sainte Vierge, si c'est pour pleurer sur des thèmes, si j'ose dire, qui n'étaient pas ceux que la Sainte Vierge avait à l'esprit? Alors vous allez dire, pourtant, les bourreaux du Christ sont haïssables. Les bourreaux du Christ, en effet, sont haïssables. C'est pour cela que nous devons nous haïr nous-mêmes. C'est pour cela que nous devons transformer, ou plutôt éprouver, nous n'avons rien à transformer, nous n'avons qu'à éprouver, la violence, la force des douleurs, la violence des douleurs de la très sainte Vierge Marie, nous devons l'éprouver en nous-mêmes par la force, sous la forme de la force de la contrition. Lorsque je regarde le Christ et que je ne pleure pas sur mes péchés qui ont contraint le Christ à souffrir de la sorte, à être fait malédiction pour moi à cause de mes péchés, je ne comprends rien à ce qui se passe et je ne participe pas aux souffrances de la très sainte Vierge Marie. La contrition, mes très chers frères, est moins le regret des péchés considérés comme méritant l'enfer, nous dit la théologie, que considérés comme offensant un Dieu très juste et très bon. Il est parfois moins difficile d'avoir la contrition en se disant « tous les péchés, je regrette tous les péchés que j'ai faits parce qu'ils me méritent l'enfer ». Et c'est ce qu'on appelle l'attrition. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, il faut dire. C'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas assez. Parce que, d'une certaine manière, cela pourrait très bien être le regret, la contrition, ou disons le regret, ne mélangeons pas les mots, le regret du coupable sur l'échafaud, ou du coupable devant le juge, au tribunal, et qui dit « Ah, je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Vous vous en voulez de quoi? De m'être fait prendre. » Ah, ben oui, mais ce n'est pas de la contrition, ça. Vous en voulez, vous êtes très triste, vous versez des larmes, vous versez même des larmes de rage, mais c'est parce que vous avez été trop bête pour vous, et vous vous êtes laissé pincer. Souvent, malheureusement, quand on arrive, les rares personnes à notre époque qui arrivent à avoir l'attrition, c'est-à-dire la contrition, disons le regret des péchés à cause du fait qu'ils méritent l'enfer, souvent, malheureusement, quand on y regarde de près, c'est parce que ce sont des gens extrêmement, dans un certain sens, extrêmement, finalement, attachés à eux-mêmes et imbus d'eux-mêmes, et ils ne veulent pas se faire mal à eux-mêmes en s'envoyant eux-mêmes en enfer, et donc du coup, ils sont très tristes d'avoir péché. Encore une fois, l'attrition vient du Saint-Esprit et c'est déjà quelque chose de très bien. Puissions-nous avoir l'attrition? Mais il faut cultiver l'attrition. Il faut souffler sur ce petit feu, sur ces petites braises, pour qu'elles deviennent la grande fournaise de la contrition. La contrition est formulée dans cet acte que nous disons tous et que nous expérimentons si peu. Mon Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Voilà la contrition. Le fait de regretter amèrement ses péchés parce qu'ils sont une offense faite au Dieu infiniment juste, infiniment bon, infiniment aimable, et qui nous interdit le péché. Seul le chrétien, voyez-vous mes très chers frères, seul le chrétien peut comprendre le crucifix. Nous avons des crucifix partout lorsque nous sommes chrétiens, ou du moins nous en avons au moins un dans notre maison. Eh bien, seul le chrétien peut comprendre. Saint Paul dit que le crucifix ou le crucifié, c'est un scandale pour les juifs et c'est une folie pour les grecs. Mais c'est la force et la sagesse de Dieu. C'est la force et la sagesse de Dieu par laquelle Dieu nous a rachetés. C'est racheter un peuple par la folie de la croix. On ne comprend rien à la passion, Mes très chers frères, si, comme la très sainte Vierge Marie, l'on n'est pas debout, crucifié avec notre Seigneur Jésus-Christ au monde et à soi-même. C'est pour cela que nous demandons un peu plus loin à la Sainte Vierge, au verset 16, « Faites que je porte la mort du Christ, que je prenne part à sa passion et vénère ses plaies. » On ne lui demande pas simplement de pouvoir se concentrer sur le crucifix, on ne lui demande pas de faire une belle oraison qu'on aura envie de partager sur son blog par la suite, on ne lui demande pas même de pleurer avec elle et d'en vouloir au monde entier qui a commis une si grande injustice, on demande tout simplement, si j'ose dire, d'être identifié au Christ sur la croix. Nous demandons d'être identifié à notre Seigneur Jésus-Christ, non pas l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, puisque nous ne pouvons pas ôter les péchés du monde nous-mêmes, mais d'être identifié à cet agneau qui, en étant fait malédiction pour nous, est devenu bénédiction, sagesse, rédemption pour nous. Au verset 9, nous revenons au verset 9, on dit à la fin, ut tecum lugeam, afin que, avec vous, tecum lugeam, je pleure. La douleur de la Bienheureuse Vierge Marie doit se transposer, doit se traduire en nous par la douleur de celui qui a conscience qu'en péchant, il flagelle le Christ dans lequel il a été hanté par le baptême. Si nous voulons pleurer avec la très sainte Vierge Marie qui se tient debout, nous devons, mes très chers frères, aimer notre Seigneur Jésus-Christ plus que nous-mêmes. Et aimer notre Seigneur Jésus-Christ plus que nous-mêmes, c'est-à-dire plus que la concupiscence nous fait aimer nous-mêmes, nous fait nous aimer nous-mêmes, eh bien, aimer notre Seigneur Jésus-Christ plus que nous-mêmes, c'est s'aimer soi-même selon Dieu. C'est donc être capable d'aimer véritablement son prochain. Proche ou éloigné. Et aimer véritablement son prochain, c'est ce par quoi se vérifie notre amour pour Dieu. Autrement dit, mes très chers frères, quand on dit au Seigneur Dieu, « Mon Dieu, je vous aime », et il faut le dire, c'est une pétition de principe. C'est-à-dire que c'est un postulat qui est une bonne chose à dire en soi, mais comment savoir si c'est vrai ? « Mon Dieu, je vous aime ». Il faut le dire souvent. Mais comment faire que ça ne soit pas simplement des vaines paroles, des vaines redites. Eh bien, c'est quand nous pleurons avec la très sainte Vierge Marie. C'est quand nous ressentons en nous, sur le mode propre de la créature déchue, et baptisée, bien sûr, la violence, c'est-à-dire la force des douleurs de la très sainte Vierge Marie. C'est quand nous aimons Dieu véritablement, quand nous nous haïssons nous-mêmes dans tout ce que nous avons de pécheur, dans tout ce que nous avons de créé, si j'ose dire, dans tout ce que nous avons de déchu, dans tout ce que nous avons de propre, comme disent les théologiens mystiques. Si nous haïssons ce qui nous est propre, alors nous nous aimons véritablement selon Dieu, nous devenons capables d'aimer notre prochain, puisque aimer son prochain, c'est lui vouloir tout le bien que nous voulons, et tout le bien que nous voulons ne peut se vouloir que dans la mesure où nous détestons tout le mal que nous aimons, et alors se vérifie notre amour pour Dieu. Alors, mon Dieu, je vous aime, est plus qu'une vaine parole que l'on dit sous la motion d'une belle lecture, d'un beau sentiment, de quelques paroles qui nous auraient superficiellement encouragés et motivés. On ne peut aimer Dieu que dans la mesure où l'on ne s'aime pas soi-même. C'est d'ailleurs aujourd'hui le 14e dimanche après la Pentecôte, et notre Seigneur, nous n'en parlerons pas, mais notre Seigneur dans l'Évangile nous dit, nous l'entendrons tout à l'heure à la fin de la messe, il nous dit « Nul ne peut aimer deux maîtres. Nul ne peut s'aimer soi-même et se tenir debout sur la croix. » Sur la croix ou à côté de la croix. Judas a eu une très forte contrition, beaucoup plus que Saint-Pierre, si j'ose dire, sur le moment. Il s'est pendu. C'est une mauvaise contrition. C'est une sorte d'attrition qui a mal tourné. La très sainte Vierge Marie savait pourquoi elle souffrait, elle se tenait debout, et nous-mêmes, avec elle et par son intercession, nous nous tenons debout, plein de la contrition de nous-mêmes lorsque nous regardons à notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Et c'est pour cela, c'est notre troisième et dernier point, C'est pour cela qu'au verset 15, nous disons ceci qui peut nous surprendre si nous avons une sorte de mariologie un petit peu laxiste. Au verset 15, il est dit ceci, « Ô Vierge illustre entre les Vierges, ne soyez point dure pour moi, laissez-moi mêler mes larmes aux vôtres. » Miki yam nonsis amara. Plus précisément, ne soyez pas amère vis-à-vis de moi. Il me semble que la traduction devrait plutôt dire ne m'en voulez pas. Comme si la Sainte Vierge pouvait nous en vouloir. Mais d'une certaine manière, si nous ne sentons pas comme elle, si nous ne voyons pas comme elle, nous ne pouvons pas être assistés par elle. Et donc elle sera amère envers nous. La Sainte Vierge est amère contre ceux qui n'aiment pas Jésus-Christ. Et c'est Saint Paul qui le dit quand il dit « si quelqu'un n'aime pas Jésus-Christ, qu'il soit anathème ». C'est très clair. Il n'y a pas d'amour de Dieu sans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un n'aime pas Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Nous lui demandons beaucoup de choses à la Très Sainte Vierge Marie vers la fin de cette séquence. Les versets 15, 16 et 17. On dit beaucoup « fac »,« faites ». Ô Vierge illustre, ne soyez pas amère contre moi. « Fac metecum plangere », faites que je pleure avec vous. « Fac ut portem Christi mortem », faites que je porte la mort du Christ. C'est toute la théologie de saint Paul. « Fac », ensuite il dit « passionis fac consortem », faites que je devienne consortem participant de la passion et que je vénère ses plaies. Fac me plagis vulnerari, fac me cruce inebriari et croe fili. Fac me plagis vulnerari, faites que je sois blessé de ses plaies, faites que je sois enivré de la croix. Voilà beaucoup de choses que nous demandons à la Très Sainte Vierge Marie, et ça n'a rien à voir avec une sorte de revanche à prendre contre ceux qui ont été les bourreaux du Christ. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Pour nous, nous devons prendre conscience que si nous ne sentons pas, si nous ne voyons pas comme la Très Sainte Vierge Marie, nous ne pouvons pas être assistés par elle. Et pourtant, la Très Sainte Vierge Marie, debout au pied de la croix, est véritablement celle dont nous avons besoin de toute intercession. Les larmes de la Bienheureuse Vierge Marie sont le modèle et la cause de notre contrition. La Très Sainte Vierge est l'Immaculée Conception. Elle ne peut pas avoir de contrition puisqu'elle n'a aucun péché. Mais ses larmes et sa douleur sont le modèle et la cause de notre contrition. Mes très chers frères, que notre amour pour Jésus-Christ, qui ne procède pas de notre nature, qui ne procède pas de notre nature immaculée, puisque nous ne sommes que des pauvres pécheurs, mais que notre amour pour notre Seigneur Jésus-Christ provienne du moins de l'horreur que nous éprouvons pour nos péchés. Nul n'aura la Bienheureuse Vierge Marie pour avocate qui ne participe pas à la passion de son Fils. Faute de quoi, nous sommes des bourreaux, les bourreaux de son Fils. Nous devons donc réparer, mes très chers frères, par notre obéissance, nos offenses qui ont crucifié le Fils de Dieu. Et nous devons réparer par notre reconnaissance ce manque de conformité que nous, baptisés, avons si souvent avec notre Rédempteur. Nous devons, par reconnaissance, demander à être identifiés avec celui qui est notre Rédempteur. C'est pour cela que nous disons à la Très Sainte Vierge Marie, au verset 10, « Facut argeat cor meum, in amando Christum Deum, ut sibi complaceam. » Faites que mon cœur s'embrasse d'amour pour le Christ, mon Dieu, afin que je puisse lui plaire. La Très Sainte Vierge Marie est la seule qui ait plu à Dieu, à cause du fait qu'elle est l'Immaculée Conception. Elle est la seule qui puisse nous apprendre à plaire à notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule qui nous donne l'exemple d'une douleur salutaire, d'une douleur qui non seulement nous concilie notre Seigneur Jésus-Christ en faisant que nous le plaisons, mais encore qui nous identifie à lui, de sorte que nous puissions dire, comme saint Paul, comme la Sainte Vierge, comme tous les saints, « Je vis, non pas moi, mais le Christ qui vit en moi. Le Christ vit en moi. » Et c'est pour cela que, lorsque nous terminons cette séquence, nous nous adressons directement au Christ Et nous disons, ô Christ, quand il faudra quitter la terre, donnez-moi par votre mère de parvenir à la palme de la victoire. Quand mourra mon corps, faites qu'à mon âme soit accordée la gloire du paradis. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.